Est-ce qu'il y a des sportifs dans la salle? Est-ce qu'il y a des sportifs? Ouais, c'est vélo là-bas. OK, quelques-uns. Pas tant que ça quand même, mais je vous avoue que moi, je pense que je suis la personne la moins sportive dans la salle. Donc, je vous comprends très bien ceux qui n'ont pas levé la main. J'avoue quand même que j'aime parfois écouter des matchs sportifs à la maison, des matchs importants comme une fois par année, hein, le football, le Super Bowl. Faut pas le dire, mais la pizza puis les nachos, c'est quand même une petite motivation en plus, là, mais faut pas le dire trop fort. Un sport, par contre, que je suis pas vraiment capable de regarder plus qu'une seconde, c'est la boxe ou tout ce qui est sport de combat. Et je pense qu'il y en a aussi qui se reconnaissent là-dedans. Et d'ailleurs, il y a une jeune boxeuse de 18 ans qui est décédée. Je sais pas si vous avez vu ça dans les nouvelles dernièrement. Ça m'a profondément troublée. C'est vraiment troublant quand même comme nouvelle. Donc, on voit à quel point c'est violent. Et certains d'entre vous, vous connaissez peut-être la plus importante ligue de combat, l'Ultimate Fighting Championship, le UFC. Ça, c'est à cause de notre Québécois Georges St-Pierre, hein, qui est un des plus grands combattants de la ligue. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Mais pour moi, celui qui a combattu l'ultime combat, le plus grand combattant de tout l'univers, c'est Jésus-Christ, évidemment. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Et c'est vraiment ce qu'on voit, en fait, dans le passage qu'on va étudier ensemble en Matthieu 4, 1 à 11, alors que Jésus est mis à l'épreuve par le diable. Quand je lisais ce texte-là, là, une des premières images qui m'est venue à l'esprit, c'est vraiment l'idée d'un combat, en plus un combat en 3 rounds. Et souvenez-vous, en plus, dans la Bible, souvent l'ennemi est appelé l'adversaire, vraiment l'ennemi, vraiment comme dans une bataille, on s'entend? Avant de continuer, des fois, quand on entend le mot « diable », je suis certain qu'il y en a qui pensent juste à une espèce de créature rouge avec une fourche puis un peu de flamme en arrière, là. Donc, pour te donner une image un peu plus biblique de qui est le diable, de Satan ou de l'adversaire, c'est tous des noms qu'on utilise pour le désigner. C'est lui qui a tenté, en fait, les hommes à se rebeller contre Dieu au début de l'humanité. On le sait avec Adam et Ève. Et c'est comme devenu le chef d'un royaume qui est contre Dieu. Son seul désir, c'est de détruire et de nous soumettre à sa volonté pour nous éloigner du plan de Dieu. Donc, on va lire notre passage et ayez en tête, en fait, cette image-là du combat avec Jésus d'un côté et l'adversaire de l'autre. Matthieu 4, verset 1. « Alors Jésus fut amené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Premier round, le tentateur vient lui dire, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Deuxième round, la première, Jésus l'a gagné. Le diable, l'emmenant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Troisième round, le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Victoire, alors le diable le laissa et des anges le servirent. Je voulais pas voler le punch, mais Jésus a gagné à la fin. Voilà, je pense que vous étiez au courant. OK, on va décortiquer ensemble les 3 tentations auxquelles Jésus a fait face. Et une des stratégies en boxe ou en sport de combat, c'est de connaître l'adversaire, en fait. C'est de pouvoir anticiper les mouvements de l'adversaire pour pouvoir éviter les coups, puis savoir comment attaquer. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi, nous, ce matin, essayer de voir les stratégies du diable pour mettre Jésus à l'épreuve. Et ça va nous permettre aussi de comprendre comment il œuvre parfois dans nos têtes et dans le monde. Mais surtout, on va voir aussi comment Jésus, est-ce qu'il a remporté ses attaques, comment est-ce qu'il a remporté la victoire sur l'adversaire. Êtes-vous prêts? C'est parti! Alors, la première épreuve du diable, c'est d'utiliser un besoin légitime pour nous amener à pécher. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Moi, j'ai faim après 4 heures, OK? On s'entend qu'après 40 jours, c'est clair que Jésus a faim et c'est même légitime qu'il veuille manger. À la limite, ça peut quasiment être dangereux. Et c'est ce besoin-là que Satan va utiliser pour tenter Jésus. Le tentateur vient lui dire, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et ça porte à confusion parce qu'il y a des choses de vraies là-dedans. Hein? Jésus, c'est le fils de Dieu, et Jésus, en plus, il a le pouvoir de transformer ces pains-là. On peut même se demander, ben, pourquoi ça aurait été si grave que Jésus, en fait, obéisse à Satan pour combler un besoin? Mais justement, c'est parce qu'il aurait obéi à la volonté de Satan et non pas à la volonté de Dieu. Avez-vous remarqué que le diable utilise un verbe à l'impératif? Il dit « ordonne à ses pains ». Le diable donne un ordre à Jésus, là. Alors, si Jésus avait obéi, ça veut donc dire clairement qu'il aurait fait la volonté de Satan et non de Dieu. Jésus aurait comblé un besoin légitime, oui, mais pas de la bonne façon, pas selon le plan de Dieu. Et avec cette stratégie-là, devant un besoin légitime que tu ressens, le diable veut te faire croire deux mensonges. Le premier, c'est qu'il veut te faire croire que de pécher, ça va combler tes besoins. Par exemple, devant ton besoin légitime d'amour, il va te faire croire que tu vas être comblé si tu couches avec quelqu'un d'autre que ta femme ou que ton mari. Devant ton besoin légitime de joie et de plaisir, il va te faire croire que tu vas être comblé si tu te saoules avec tes amis ou que tu prends de la drogue pour avoir du fun. Devant ton besoin légitime de justice, il va te faire croire que tu vas être comblé en te mettant en colère contre l'Église voisine ou contre le gouvernement. Mais tout ça, c'est faux. C'est juste une stratégie pour nous emmener à pécher. Et c'est ça le premier mensonge de l'ennemi, te faire croire que tu peux combler tes besoins, que ça va combler tes besoins de pécher, en fait. Alors que la seule chose qui peut vraiment nourrir notre âme, on a été créé pour ça, c'est de faire la volonté de Dieu. Jésus va dire dans Jean 4, 34, « Ma nourriture, on parle de pain là, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est vraiment juste quand tu vas présenter tes besoins à Dieu, lui, il va faire soit deux choses, soit les combler lui-même, combler ton besoin d'amour, par exemple, ou soit il va te montrer le bon chemin pour les combler. Le deuxième mensonge que Satan va te faire croire, c'est que tu n'as pas besoin de Dieu. Donc, non seulement tu peux utiliser le péché pour combler tes besoins, mais que tu n'as pas besoin de Dieu. C'est pour ça que Jésus va riposter à Satan, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est ça la riposte de Jésus. En d'autres termes, là, t'es pas seulement physique, on a aussi des besoins spirituels et surtout des besoins spirituels. Et l'ennemi essaie par tous les moyens là, qu'on garde notre focus juste sur ce qui est matériel, en fait, et qu'on oublie l'auteur derrière tout ça. Pour qu'on soit tellement préoccupé par nos besoins physiques qu'on oublie que notre plus grand besoin il est spirituel, c'est celui d'être nourri par la parole de Dieu. Et c'est fou parce que quand la parole de Dieu devient une nourriture pour nous, elle finit par devenir une arme. OK, on est en mode combat. Avez-vous remarqué que les trois tentations, Jésus a seulement cité des paroles, des versets de la Bible pour se défendre contre Satan? C'est incroyable. C'est en déclarant la vérité de la parole de Dieu qu'il a gagné le combat. L'apôtre Paul va dire ceci, « Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. » Et après avoir listé toutes sortes d'armes spirituelles, il va dire, « Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Mais pour que la parole de Dieu soit une arme pour nous, il faut d'abord que ce soit une nourriture. Hein? Pour utiliser la parole contre l'ennemi, ben, il faut la connaître. Si tu ne la connais pas, tu ne peux pas l'utiliser. Une Bible fermée, là, ça reste un livre comme un autre. Il faut que tu l'ouvres pour que Dieu te parle. Et c'est seulement en connaissant Dieu, son caractère, sa volonté, ses vérités, ses intentions qui sont révélées dans sa parole, il nous l'a offert, qu'on peut tenir ferme devant les mensonges de l'ennemi. Parce que d'un côté, on a Satan qui est appelé le père du mensonge. Et de l'autre côté, on a Jésus qui est appelé la vérité. Jésus dit en plus qu'il est le pain de vie. Pour résister au père du mensonge, il faut que la parole de Dieu, que notre communion avec Jésus soit notre pain quotidien, par nos moments qu'on prend avec lui dans la prière, la louange et la lecture de la Bible. Pour ceux qui font du sport, vous savez qu'après une bonne séance d'entraînement, on prend des protéines, un bon petit chèque de protéines. Pourquoi? Parce que ça vient réparer, en fait, les muscles et ça va nous permettre de devenir plus forts. C'est exactement comme la parole de Dieu qui est d'abord une nourriture, mais qui après devient une arme. Ça nous muscle pour devenir plus forts. Et ce matin, j'aimerais ça vous inviter à faire le bilan alimentaire, votre bilan alimentaire spirituel. Est-ce que tu as assez de protéines dans ton régime? Est-ce que tu as assez de viande ou de tofu pour les végétariens pour être capable d'aller au combat? Qu'est-ce qu'on va donner à Georges Saint-Pierre? Est-ce qu'on va lui donner des frites puis du ketchup, même si c'est vraiment bon? Mais non, on va lui donner des protéines, quelque chose de solide qui va le rendre plus fort. Mais j'aimerais te dire, contente-toi pas juste de frites et de ketchup. Venir à l'église une fois par semaine ou une fois de temps en temps, écouter des clips de 30 secondes de prédicateurs en feu, lire le verset du jour, même si tout ça, c'est des choses excellentes et que tu dois, que tu peux mettre en place dans ta vie, tu as besoin de protéines. Tu as besoin de ton pain quotidien, une communion avec Jésus, le pain de vie, une connaissance de la parole qui va te permettre de déceler les mensonges de l'ennemi, non seulement dans ta tête, mais aussi dans le monde. Le monde est tellement... On a besoin d'être solide, là. Le monde est rendu n'importe quoi. Le bien et le mal, c'est confondu. La vérité et le mensonge, on a besoin d'être fort pour aller au combat. Et vas-y graduellement, hein. Si tu n'as jamais fait de sport, on ne va pas te demander de suivre un entraînement d'un athlète olympique. C'est clair, il faut vraiment le voir de la même façon. Mais on peut tous aller un peu plus loin dans notre relation avec Dieu. Si tu lisais 5 minutes de temps en temps, bien lis 5 minutes 3 fois par semaine. Si tu priais 15 minutes le lundi, bien, prie 20 minutes le lundi et le mardi. Si tu passais une heure dans la présence de Dieu chaque matin, commence à jeûner 2-3 jours par mois ou à prendre des versets par cœur. On peut tous aller plus loin parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Je sais qu'il y a des amoureux de la parole ici. Okay, donc, la première épreuve du diable, c'est d'utiliser un besoin légitime pour nous amener à pécher et te faire croire que tu n'as pas besoin de Dieu. La deuxième stratégie, c'est d'utiliser ton identité pour provoquer Dieu. On est au verset 5. « Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera à ses gens, à ses anges des ordres à ton sujet. » Ouais, c'est pas facile, celle-là. Et il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et Jésus lui dit, il est écrit, et il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Avez-vous remarqué que Satan va utiliser la même stratégie que Jésus à ce moment-là, parce qu'il va citer le psaume 91. Satan lui-même va citer la parole. Ça nous montre encore une fois que c'est vraiment important de connaître non seulement la parole de Dieu, mais aussi d'aimer l'auteur derrière. Parce que, en fait, comme Satan, on peut faire un peu dire n'importe quoi à la Bible. Satan, encore une fois, il essaie de tordre la vérité, même la vérité biblique. C'est quand même fort. Hein? Ça montre à quel point c'est important de lire la parole, mais de s'attacher à Dieu pour connaître vraiment son caractère, ses intentions. Et ici, Satan veut que Jésus abuse un peu du pouvoir de Dieu, on pourrait dire. C'est comme si Satan disait à Jésus, « T'es pas game de sauter en bas. De toute façon, Dieu va te protéger. » Et Satan veut aussi qu'on utilise notre identité d'enfant de Dieu, parce que nous aussi, on est ses fils et ses filles. Hein, il dit, « Puisque si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Ça pourrait être une tentation pour nous aussi. Provoquer Dieu, c'est lui désobéir pour voir jusqu'où va aller sa patience. C'est abuser de sa bonté et de sa grâce. Et la provocation avec Dieu, ça va tout de suite de pair avec l'obéissance à ses commandements, à sa volonté. C'est ce qu'on voit quand on lit, en fait, la suite du verset que Jésus cite. Donc, Jésus a cité « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu » et ça, c'est dans le Deutéronome, Deutéronome 6. On va aller lire la suite de ce passage-là et vous allez voir ce que je veux dire. « Vous ne provoquerez pas le Seigneur, votre Dieu. » C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. « Vous observerez les commandements du Seigneur, votre Dieu, ses préceptes et ses prescriptions, tels qu'il les a institués pour toi. Tu feras ce qui convient au Seigneur, ce qui lui plaît. » Okay, donc, on voit ici que le contraire de la provocation, c'est de suivre les commandements de Dieu. Et Satan va plutôt nous tenter à utiliser notre statut d'enfant pardonné pour penser un peu comme ça. Je te donne des exemples. « Ah, bien, de toute façon, Dieu va me pardonner. Je peux bien faire des petites affaires, semi-correctes, qui ne dérangent pas trop. » Ou « De toute façon, bien, Dieu m'aime, il comprend ma situation. Il comprend pourquoi je reste, par exemple, dans une relation qui lui déplaît. » Ou « Il comprend pourquoi je ne m'engage pas à venir à l'église ou à lire ma Bible. Je suis tellement débordée et c'est vrai que Dieu te comprend. » La plus grande preuve, c'est que Jésus a vécu lui-même la tentation. On lit en Hébreux 4, 15, 16. « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, il parle de Jésus ici, incapable de compatir à nos faiblesses. Non, au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Jésus nous comprend parfaitement, mais on s'approche de lui pour trouver la grâce et le secours, pas pour rester dans notre péché. Quand quelqu'un vit dans le péché comme délibérément, dans une situation qui est vraiment contre la volonté de Dieu, je ne parle pas de quelqu'un qui vit des combats, je suis la première à vivre des combats et à vouloir me débarrasser de mes péchés, de mes défis, mais quelqu'un vraiment qui fait des choix de vie contraires à la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui me trouble plus que d'entendre, par exemple, quelqu'un qui va dire « Ah, ben tu prieras pour moi, pour la faveur de Dieu, pour tel projet ou quoi que ce soit. » Et la grâce de Dieu, ça nous dépasse totalement, ça c'est clair, mais si tu vis délibérément dans le péché, ce que Dieu veut, c'est pas nécessairement t'envoyer ta faveur. Ce que Dieu veut, premièrement, c'est ton obéissance et ta repentance. Et je le dis vraiment pas avec jugement, loin de là. Je le dis parce que devant la majesté, la sainteté de Dieu, je peux pas concevoir de continuer pécher à côté de lui. De choisir de rester dans le péché comme enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, c'est toujours jouer sur les limites de ton salut. C'est comme prendre un peu pour acquis la grâce de Jésus qui est mort à la croix pour vaincre notre péché. Et l'ennemi veut que tu restes là. Jamais trop bouillant pour Dieu, jamais dans le ring pour te battre, parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas menaçant pour lui. Et comment il va faire pour que tu restes là? Il va te faire croire que Dieu est un peu comme tyrannique de vouloir qu'on lui obéisse, ou il va te faire croire que ça va être plate, en fait, la vie que tu vas trouver si tu obéis à Dieu. Ça va être plate et oppressif. Mais j'aimerais qu'on lise la suite de notre passage. Okay? On reprend notre passage dans Deutéronome. « Vous ne provoquerez pas le Seigneur, votre Dieu. Vous observerez les commandements du Seigneur, votre Dieu, ses préceptes et ses prescriptions telles qu'il les a institués pour toi. Tu feras ce qui convient au Seigneur, ce qui lui plaît, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que le Seigneur a promis par serment à tes pères. » Pour repousser tes ennemis devant toi, comme le Seigneur l'a dit. Amen. Faire la volonté de Dieu, abandonner notre péché, ça ne nous amène pas à l'oppression ou à la platitude. Au contraire, Dieu nous dit que ça nous amène le bonheur afin que tu sois heureux. Dieu nous dit qu'il y a un bon pays de préparer pour nous. Mais pour y aller, il faut que tu repousses l'ennemi qui dit que la terre promise de Dieu n'est pas bonne ou est plate. Encore une fois, Satan, il veut semer la confusion sur les intentions de Dieu et sur son caractère. Dieu a une terre promise pour toi qui dépasse tes attentes. Fais juste, faut juste que tu lui fasses confiance et que tu marches dans sa volonté. Finalement, on arrive à notre troisième combat en Jésus et l'adversaire. Et on est au verset 8 dans Matthieu 4. On le lit ensemble. Le diable emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Ici, le diable va changer de stratégie. Au lieu de donner des ordres à Jésus, il dit, « Ordonne que ces pierres deviennent des pains, jette-toi en bas. » Là, il va lui promettre quelque chose. Mais après que Jésus ait esquivé les deux attaques du diable, là, c'est à son tour de Jésus, c'est au tour d'attaquer. Et puisqu'il a l'autorité sur Satan, Jésus va remporter le combat. Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan! » Il lui donne un ordre. « Car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. Ce qui m'a frappé quand j'étudiais ce passage-là, c'est de réaliser qu'en fait, Jésus méritait tous les royaumes du monde et leur gloire. Il le mérite. Et c'est ce que Satan lui promet, en fait. Mais c'est la façon de l'obtenir qui est contraire à la volonté de Dieu, en fait. Et imaginez un petit peu, pour obtenir ce qu'il méritait, Jésus, il aurait eu juste besoin de faire un petit mouvement devant Satan. Juste un simple mouvement. Mais au lieu de faire ça, Jésus devait passer par la croix pour être glorifié. Et c'est ça la troisième tentation de l'ennemi, la troisième stratégie de l'ennemi. C'est utiliser des raccourcis pour aller plus vite. Avec ce passage dans Philippiens 2, on voit que Jésus n'a pas pris de raccourcis pour nous, mais qu'il a choisi le long chemin de l'humilité et de la souffrance. Philippiens 2, 7 et les suivants. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Wow! Amen! Quel beau passage qui résume tout ce que je viens de dire. Jésus s'est complètement humilié pour être élevé et c'est pas Jésus qui a à se courber devant quelqu'un, c'est nous par la suite qui nous courbons devant nous et Satan va le faire un jour aussi. C'est parce que Christ a choisi le long chemin de la croix qui a été élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de tout royaume, qui a eu ce qu'il méritait. Jésus a pas pris de raccourci pour nous. Et choisir la croix plutôt que le raccourci, je crois sincèrement que ça a été la tentation la plus difficile pour Jésus. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ça explique sa réaction face à Pierre, que j'ai compris pour la première fois de cette façon-là, que je trouvais souvent un peu trop intense ou que je comprenais mal. Rappelez-vous, cet épisode, on est dans Matthieu 16. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait beaucoup souffrir, donc prendre le chemin de la croix. Être mis à mort et ressuscité le troisième jour, prendre le long chemin, pas prendre de raccourci. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » C'est comme si Pierre disait, « Ben non, on va trouver un raccourci. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les miennes, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et moi, j'ai toujours pensé que Jésus était peut-être, c'était trop intense, trop sévère, on pourrait dire, envers Pierre, mais en fait, il s'adresse à Satan. Comme dans le désert, il s'adresse directement au tentateur, à l'adversaire. C'est comme si Jésus doit attaquer à nouveau cette tentation-là de choisir le raccourci, de ne pas passer par la croix. C'est aussi pour ça qu'il va dire dans le jardin de Gethsémané, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En d'autres termes, Jésus, ici, il a crié à Dieu, « Mon Père, je voudrais prendre le raccourci, mais je vais prendre le long chemin de la croix parce que je les aime. » Jésus n'a pas pris de raccourci pour nous. Le raccourci, là, ça va plus vite. Mais c'est pas le plus beau chemin. Je te le garantis. C'est pas le plus beau chemin pour toi. Il y a quelques années, Julien et moi, on est allés dans un autre ordre d'idées. On est allés en voyage dans à Universal Studios, en fait. C'est un parc d'attractions. Et puis, c'est vraiment cool, ce parc-là, parce que, en fait, ça remet en scène des films. En fait, on entre dans les scènes de films. Et tout au long des files d'attente, on entre dans les décors de films et c'est comme si on se trouvait dans le film carrément. C'est vraiment incroyable. Et en fait, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on pouvait acheter des fast-pass. Souvent, on peut faire ça dans les parcs d'attractions. Des fast-pass, ça te permet de passer la file finalement puis d'aller à ton attraction plus rapidement. Et à un moment donné, il y avait moins de monde, donc les employés nous ont permis de prendre la fast-pass gratuitement. Donc, on a fait ça, mais on s'est rendu compte qu'on faisait pas toute la file pour se rendre à l'attraction. Par contre, il y a une photo qui est à l'écran, si on peut passer à la prochaine diapo. Vous allez voir à quel point c'est magnifique. Une de nos attractions préférées, c'était justement dans un château. Et puis, il y a des cadres ici, là, mais les cadres étaient tous animés. Et c'est un film qu'on aime beaucoup, Julien et moi. Et là, on se retrouvait là-dedans. On tripait, là. C'était vraiment incroyable. Mais quand on prenait le fast-pass, on passait, oui, la file d'attente, mais tout le décor du film, qui est comme la moitié, c'est tout autant le fun vivre ça que vivre l'attraction en tant que telle. Donc, finalement, on a vraiment décidé officiellement qu'on n'allait jamais prendre les fast-pass et passer une heure d'attente, mais en même temps, c'est vraiment magnifique. Donc, on trouvait ça vraiment décevant de ne pas voir tout ça. Le raccourci, ça va plus vite, mais c'est pas le plus beau chemin. Ça t'est peut-être arrivé aussi avec un voyage, supposons, « Ah, on va prendre un raccourci, puis tu manques finalement le beau paysage devant toi. » Quand on prend la 138, on manque la route du fleuve. Attention au raccourci de l'ennemi. C'est une des stratégies pour te tenter parce que c'est souvent plus rapide et plus facile. En plus, dans une société où tout se fait rapidement, on veut tout obtenir tout de suite. Il faut réaliser que ça prend du temps, développer une relation, développer une dynamique d'église, développer une relation avec Dieu, avec les autres. Il n'y a pas de raccourci pour ta relation avec Dieu, avec les autres. Ça demande du temps et de l'engagement de ta part. Mais fais-moi confiance, c'est le plus beau chemin, parce que c'est celui où tu vas avoir Jésus à tes côtés qui marche avec toi. Et comme Jésus était engagé envers Dieu et envers nous jusqu'à mourir, la vie chrétienne, c'est un long chemin qui n'est pas toujours facile, mais ça demande de l'engagement, de la patience et parfois même des souffrances. C'est beaucoup plus facile, par exemple, de rester centré sur soi et beaucoup plus long et engageant et souffrant, finalement, de s'ouvrir aux autres. C'est beaucoup moins compliqué de vivre ton quotidien sans penser à Dieu et beaucoup plus engageant de chercher à agir conformément à sa volonté. Des fois, moi, j'ai cette pensée-là, je me dis, c'est pas facile être chrétien, il me semble. Tu dis toujours, ah, je devrais-tu faire ça, je devrais, non. Toutes sortes de pensées qui viennent. Finalement, j'aimerais mieux être comme un peu inconsciente, mais après, tu te rends compte que tu veux pas ça. Tu veux pas ça. Puis que le meilleur, c'est toujours ce que Dieu a pour toi. Est-ce que tu prends souvent des raccourcis envers Dieu, envers les autres, ou est-ce que tu es engagé sur le long chemin avec Jésus à tes côtés, que lui, il n'a pas pris de raccourcis? Pour conclure, il faut comprendre que Jésus, à ce moment-là, il n'a pas gagné une petite bataille dans le désert. Je vous l'ai dit en commençant, il a combattu l'ultime combat dans le désert et à la croix. Et pour comprendre la teneur de l'exploit, il faut se rappeler la première fois que le diable a tenté quelqu'un. C'est avec qui? Avec Adam et Ève, au début dans le jardin. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'Adam et Ève ont succombé à la tentation? Bien sûr. Ils n'ont pas été capables de remporter le combat. Êtes-vous capable de me donner des noms avec lesquels on désigne Jésus dans la Bible? Nommez-moi des noms de Jésus. Yahvé, c'est plus deux. Dieu, Jésus, lui-même. La parole, ouais, le pain de vie, le Fils, l'agneau de Dieu, Emmanuel, et un que je n'ai pas entendu, fils de David, un que je n'ai pas entendu, c'est le nouvel Adam. C'est-à-dire le premier-né d'une nouvelle création, le premier d'une nouvelle humanité. Jésus a fait ce qu'Adam et Ève n'ont pas été capables de faire. Il a été capable de vaincre le tentateur. Tout ça, c'est pas par hasard, là. Et plusieurs années après la défaite d'Adam et Ève, le peuple d'Israël, que Dieu a choisi dans l'Ancien Testament, était censé recommencer à zéro ou représenter la sainteté de Dieu, être capable de faire les choses comme il faut. Mais eux non plus, ils n'ont pas réussi. On lit dans le Deutéronome, dans l'Ancien Testament, on lit que Dieu a mis à l'épreuve pendant 40 ans le peuple d'Israël dans le désert. Ça vous rappelle pas quelque chose? Jésus, au désert, mis à l'épreuve 40 jours. C'est pas un hasard. En gros, ça veut dire que Jésus a fait ce que Adam, ce que le peuple d'Israël n'était pas capable de faire. Ni Adam, ni le peuple, ni aucun être humain, ni toi, ni moi, on est capable de résister à Satan. Il y a juste Christ qui a été capable d'accomplir cet exploit pour nous. Pour nous. Dans ce sens-là, on peut imiter Jésus face aux tentateurs. Par exemple, en utilisant la parole de Dieu pour nous défendre. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. La différence entre notre foi en Christ et les religions, c'est que Jésus n'est pas seulement un modèle à suivre, un maître à imiter, bien que c'est le cas. Mais c'est pas seulement ça. Jésus a remporté la victoire à notre place. Ce qu'on n'était pas capable de le faire, il le fait pour nous. C'est ça la puissance de l'Évangile. Et si tu es comme moi, tu trouves ça difficile parfois de résister à l'ennemi, de marcher droit dans les chemins que Dieu a pour toi. Mais rappelle-toi que Jésus a déjà remporté le combat. La bataille qu'on mène est déjà remportée. La seule chose que tu dois faire pour résister à la tentation, c'est reconnaître ton besoin de Christ. Choisir d'obéir à son esprit, à Christ qui habite en toi, qui a remporté la victoire. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus qui a remporté la victoire pour nous? C'est notre combattant. Merci, Jésus.